Bienvenue à Escale 17-18 avec Fulgence Blau au micro et Nicolas Fadman à la technique. Oui, c'est jeudi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Myriam Larache a parti juste après mon petit, voilà, mon petit décor de démission. Va nous parler de sport. De sport, de quel sport? De hockey avec Harry Price, basketball de Montréal, foot, soccer Montréal, international et international. Et puis du tournoi de golf de Toronto. Et en deuxième partie d'émission, mon invité est déjà là. André Delisle, c'est le directeur général et conservateur du château Ramsay. Exposition Le son de l'Arctique sur Roald Amundsen et de l'exposition Monde Inuit et de l'exposition permanente aussi du jardin, du circuit de la visite et du château même Ramsay de manière plus générale. Et pour ceux qui ne savent pas où c'est situé là, vous allez le savoir, vous allez découvrir ce que le directeur général et conservatoire et conservateur va nous dire de ce château que moi j'adore. Je l'ai visité deux ou trois fois, je ne sais pas, quand j'étais arrivé ici à Montréal en 2004. Il faut le dire, c'est un de mes châteaux préférés. C'est un musée pour moi, ça fait partie de ces musées de l'histoire. Tout est là-dedans, tout est à l'intérieur. Alors, restez à l'écoute, à partir de 17h30, André Delisle va nous parler de ça. Voilà. Et Myriam est déjà là? On y va? Bonjour Myriam Larache.
Bon après-midi Fulgence et à tous nos fidèles auditeurs, ça va bien?
Oui, ça va bien, j'ai pas été mouillé.
Ah,
voilà,
comme je disais à Nicolas hors onde, tous les jeudis maintenant on le voit, il pleut, parce que je vous le dis tous les jeudis.
Ouais, c'est presque comme ça maintenant. Alors qu'est-ce que tu nous as préparé?
Alors, on va parler donc de hockey, de soccer, de basketball, de golf, beaucoup de choses à dire. On y va et on perd pas de temps. Alors, on va commencer avec le hockey, bien sûr, Carey Price. Alors, vendredi dernier, la LNH a remis le trophée Bill Masterton au gardien du Canadien de Montréal, Carey Price.
Oui.
C'est le joueur qui s'est le plus illustré pour sa persévérance, son esprit sportif et son dévouement au cours de la saison, qui reçoit cette récompense en général. Donc, le gardien de 34 ans a disputé seulement 5 matchs cette saison et il a gagné quand même le prix. Et ce, après s'être absenté pendant plusieurs mois pour guérir une blessure à un genou, rappelons-le, et pour participer au programme d'aide des joueurs de la NH qu'il avait demandé officiellement. Alors, il a dit, ce trophée est spécial en raison des circonstances de cette année. Quand je pensais être prêt à revenir, ça a été reporté. Je suis reconnaissant de tout le soutien que j'ai reçu cette saison, sans quoi je ne serais pas ici aujourd'hui. Alors, il est très humble. Price n'en est pas à sa première récompense, sachez-le. Il a empoché déjà le trophée Vezina en 2014, le trophée Hart en fin de saison en 2015 et le trophée Ted Lindsay qui couronne le joueur de l'année à la suite du vote des membres des joueurs de la LNH. Donc quand même, il a déjà eu beaucoup de prix. Rappelons que le contrat du gardien est valide encore pour 4 saisons. C'est lourd pour le Canadien ça, parce qu'il ne joue pas, hein, pendant lesquelles le CH devra lui verser 31 millions de dollars. Alors on espère qu'il va revenir, hein, pour être efficace. Alors, le statut de Price est toujours incertain, selon Ken Hughes, en vue de la prochaine saison. Le tricolore espère être fixé prochainement sur l'état de santé de son gardien, parce que vous savez qu'en juillet, c'est nous qui recevons le repêchage. Et ils peuvent le mettre comme joueur autonome. Hein, s'ils voient que ça ne marche pas, là, ils peuvent le lâcher, Carey Price. Alors,
il peut les lâcher aussi, Myriam. Si son corps lui dit Carey.
Dans la situation où il est, je ne pense pas qu'il va prendre cette décision comme ça. Hein. Il leur doit beaucoup, ils l'ont laissé. Alors, il est plus jeune, Carey Price.
34 ans, dans le monde sportif professionnel, c'est déjà...
Oui.
On voit un peu Roger Federer, il n'est pas revenu encore, là.
Ouais. Ah, il a 40 ans, lui.
Oui, il a 40 ans.
Mais juste,
Myriam, je pense que Federer va faire un match de démonstration, un adieu au tournoi de Bâle.
Possible, mais il est encore en train de se faire réparer. Hein. Il
continue à faire
des opérations. Oh. Tout, alors,
il va revenir pour un match de revoir.
Regarde Nadal qui annonce presque qu'il ne revient plus. Il y en a beaucoup qui s'en vont là.
Ils sont tous souffrants, ouais.
Et s'ils ne sont pas parce qu'ils sont vieux, parce qu'il y a des accidents sur le terrain graves, comme on a vu de celui d'Alexandre Zverev. Mais on ne va pas s'étaler sur ça. On va passer au basketball maintenant.
Qu'est-ce qu'il y a de nouveau?
L'Alliance de Montréal continue d'épater la galerie dans ses locaux de Verdun. L'équipe montréalaise l'a emporté 94-74 contre les Nighthawks de Guelph. Montréal a pris les devants dès les premières minutes et n'a plus jamais tiré de l'arrière. l'Américain Dominic Green et l'Ontarien Isaiah Osborne. Je vous donne les noms, comme ça on commence à s'habituer à nos petites vedettes.
Il va falloir qu'on s'habitue à ce nom-là, de toutes les façons. Mais où est-ce qu'ils sont allés recruter ces talentueux joueurs de basket là,
des Américains, il y en a qui
mettent du feu un peu partout.
C'est comme un peu, tu sais. Ça fait un peu comme référence à la MLS, tu sais, quand les Thierry Henry puis les Beckham qui reviennent dans la MLS américaine, ça fait un peu ça.
Ouais.
Alors, les deux joueurs donc, qui ont été les plus utilisés par leur entraîneur-chef Lavandier, ils ont inscrit respectivement 22 et 20 points dans la victoire. Alors, des victoires à domicile, mais là, c'est un petit bémol, car les défaites sont à l'étranger. Ils perdent toujours quand ils sont en dehors de chez eux de Verdun. Alors, je ne sais pas si c'est Verdun qui leur donne un... Oups, et les gens, parce que les gens sont très motivés, hein, ils les encouragent, ils crient fort, mais quand ils sont en dehors de leurs locaux, ben, ils perdent leur match.
Il va falloir qu'ils s'habituent au public étranger.
Voilà, sur une fiche de 5, ils ont donc de 5 matchs, 3 à la maison sont gagnés, 2 à l'étranger sont perdus. Donc ça nous ramène à la défaite qu'ils ont eue donc, contre les River Lions à Niagara, qui confirme donc cette tendance. L'entraîneur-chef a dit... On doit apprendre des matchs à domicile pour être meilleur lors des matchs à l'extérieur. Il a laissé tomber, donc en conférence de presse. Soulignons que pour une troisième fois en 3 matchs à domicile, les Montréalais ont répondu présents à l'auditorium de Verdun. Ils étaient 3015 spectateurs. Et à l'image des 2 matchs précédents à domicile, il y avait de l'ambiance et la foule criait fort. Voilà. Alors, on continue nous aussi de les encourager.
Tu sais quoi, tu me donnes l'envie d'aller les voir pour leur prochain match.
Faut qu'on y aille ensemble, Fulgence. C'est vrai. Il faut qu'on y aille.
Tu me donnes l'envie d'aller les voir.
Oui, on emmènera mon fils, car c'est un grand fanatique de soccer. Il suit d'ailleurs la série de la NBA en ce moment. Hein.
Oui.
Que ça joue les Celtics, ils sont en train de jouer et peut-être gagner. Alors, on passe au soccer maintenant. Sur le plan national, tu as dû sûrement le souligner peut-être cette semaine dans tes émissions, mais le match de soccer masculin qui était prévu à Vancouver contre le Canada et le Panama a été annulé en raison d'une dispute contractuelle en cours. Le Canada, 38e mondial, avait précédemment annulé aussi des séances d'entraînement. Il y aurait des désaccords donc à propos du salaire des joueurs qui prendront part à la Coupe du Monde, rappelons-le, de soccer en novembre au Qatar. Il y aurait aussi des problèmes concernant le transport des athlètes et leurs proches. Ils ne veulent pas emmener leurs proches. Donc, et les athlètes jusqu'au Qatar, ça sera à leurs frais. Alors, ça les fait un peu titiller, tout ça. Soccer Canada a émis une déclaration disant qu'il était actuellement en discussion avec les joueurs de l'équipe nationale concernant leur rémunération juste et équitable avant la période de la Coupe du Monde. J'espère que ça va se régler avant. La FIFA a annoncé le 1er avril que la cagnotte totale, tout ça a créé ça. C'est l'annonce de la FIFA qui, le 1er avril, a dit « La cagnotte sera de 440 millions de dollars, dont 42 millions seront donnés aux vainqueurs. » Et les équipes éliminées en phase de groupe, c'est-à-dire dès le premier pool, ce qui nous concerne, on va faire au moins la première étape, obtiendront donc 9 millions.
Oui.
Alors le président de Canada South Coast a dit, bon, ben moi je vais vous donner 30% de ça.
Oui.
Voyons donc.
Mais voilà, quand j'ai lu ça, Myriam, je me suis dit, mais est-ce que les professionnels comme les Alphonse Davies et autres là, qui sont à Munich en Europe, là, est-ce qu'ils vont accepter ça? Non, il n'en est pas question.
Mais même les autres, encore lui, peut-être, il peut consentir parce qu'il fait déjà beaucoup d'argent, mais les autres qui ne font pas beaucoup d'argent, ça doit encore plus les toucher qu'elles vont sauter.
Alors, ils réclament, ils veulent au moins 40% et puis ils luttent aussi pour leurs collègues, les femmes, football féminin.
Exact, une rémunération équitable entre les équipes masculines et féminines, parce que vous savez qu'il y a un mois aux États-Unis, ils ont réglé ça, ils ont décidé, donc ils prennent l'exemple sur les Américains en disant pourquoi au Canada on ne le fait pas.
Mais de toutes les façons, comme c'est là, depuis 36 ans, c'est maintenant, ils se rendent en Coupe du Monde, ils pensent que tous les sous, tout l'argent qu'ils allaient recevoir de la FIFA, c'était pour eux ou bien c'était pour les joueurs, c'était pour la fédération et les joueurs.
Ben c'est ça. Les deux causes se défendent, hein, parce que lui, le Nick Bontis, il dit, mais vous savez, si on veut garder notre organisation viable et continuer à les entraîner, faire des rencontres, parce que ça coûte de l'argent tout ça, faire des rencontres et tout ça, il faut qu'on ait de l'argent, parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent encore.
Ils n'ont pas beaucoup d'argent, c'est pas les joueurs qui doivent leur apporter de l'argent, c'est la vente des billets.
Et c'est sûr. Alors chacun cherche...
Tire le drap de son côté.
Exact. Mais ce qu'on souhaite, Fulgence, c'est que pour qu'on aille dans un bon... La Coupe mondiale, il faut y aller dans un état mental presque parfait.
S'ils ne s'entendent pas qu'ils s'en vont, ils ne vont pas aller loin.
Voilà. S'ils s'en vont brouiller comme ça dans cet état d'ambiance, mais quelle est la chance pour qu'on passe juste le premier match?
C'est ça, voilà. Les gens vont se dire, bon, avec 30%, on ne se casse pas les pieds, là.
Le Canada a mort ce soir, rappelons-le, il joue ce soir, hein. Alors j'ai hâte de voir ça, il joue ce soir contre Curaçao à 21h30 ou 10h30 Donc, à Vancouver.
C'est un match amical, c'est un match amical.
Non, c'est le départ de la série contre, de la CONCACAF. Donc,
déjà
la Ligue des Nations. Déjà,
ça,
c'est ce
ça
soir
va
à
vite,
Vancouver.
Ça va vite,
oui.
Ouais.
Alors, on a bien hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire pour voir comment cette équipe qu'il a sélectionnée va déjà fonctionner. Parce qu'ils n'ont encore rien fait, là, ensemble. Hein. C'est leur premier
d'accord,
match. Là.
D'accord,
okay.
Ouais.
Alors, on passe à l'international. Oui, tout le monde le sait. Et là, tout le monde voulait que l'Ukraine gagne. Ben, elle n'ira pas au Qatar. Le Pays de Galles l'a emporté 1-0 pour arracher le dernier ticket de la zone Europe à la prochaine Coupe du Monde au Qatar. Ça y est, les Jeux sont faits pour les Européens. Et au bout d'un match à suspense, sous une pluie battante, Fulgence, sur le Cardiff Stadium,
oui,
c'est le coup franc du capitaine Gareth Bale, et dévié par un joueur ukrainien,
le pauvre,
dans son propre but,
ah oui,
qui a donné la victoire
un
aux Gallois.
Ouais.
Ouais. Bon, ça arrive, hein, on le voit dans le mondial. Hein,
oh,
c'est
ouais. J'ai dit le pauvre.
Oui.
Il y a des joueurs sud-américains, je te coupe pas la parole Myriam, il y a des joueurs qui, sud-américains qui se sont fait battre comme ça par leurs supporters, parce qu'ils ont marqué contre leur propre camp, quoi, je veux dire.
Exact,
c'est vraiment ça.
Hélas. Alors, ils ont pu célébrer cette deuxième qualification de leur histoire, hein, les Gallois. C'est la deuxième fois qu'ils y vont. Ils n'y sont pas allés depuis 1958. Mais tiens-toi bien, ils avaient atteint tout de même les quarts de finale. Qui les a éliminés? Ben, le Brésil avec Pelé en 1958, quand même. Et qui ont été d'ailleurs les vainqueurs de cette édition en 1958, les Brésiliens. Ils étaient allés loin, les Gallois, en 1958. Faut s'en méfier.
Oui, ça veut dire qu'ils avaient une bonne équipe à l'époque.
Oui.
Voilà.
Faut s'en méfier pareil.
Ouais, non. À cette étape, comme je dis toujours, Myriam, à cette étape de la compétition, toutes les équipes se valent.
Exact.
Faut pas les sous-estimer, voilà. Tout le monde peut gagner, voilà.
Alors, l'Australie a réussi son premier barrage en éliminant les Émirats Arabes Unis 2-1 dans la zone Asie. Et dimanche, eux aussi, c'est la journée de la dernière chance. Donc, Australie et Pérou qui vont jouer leur chance pour avoir un ticket pour ce mondial.
Ouais, alors, que le meilleur gagne.
Que le meilleur gagne.
Ouais.
On finit avec le golf, car vous savez que l'Omnium canadien RBC a commencé ce matin à Toronto au Saint-Georges Golf and Country Club. Et le championnat masculin avait été annulé ces deux dernières années en raison de la pandémie. Et sachez que c'est Rory McIlroy, le dernier à y avoir triomphé en 2019. Il y participe cette année avec de grands noms comme le meilleur de la planète en ce moment, c'est Scottie Scheffler, Justin Thomas qui est aussi un des favoris, Cameron Smith, deuxième meilleur au monde. Tout ça, je le dis pourquoi? Parce que les billets se sont bien vendus quand même, et ce, parce que le plus grand ambassadeur de la Banque royale du Canada, RBC, Dustin Johnson, a annoncé qu'il se retirait du tournoi et qu'il allait jouer, seulement il y a quelques jours, et qu'il allait jouer à la série Live Golf. Tu te rappelles, Fulgence, je t'ai parlé de cette nouvelle série saoudienne qui donne des millions par-ci, par-là. Donc, au même moment que le championnat canadien se joue, dans le tournoi des tours de la PGA, la nouvelle ligue saoudienne, la Live Golf, se joue à Londres avec quand même 48 golfeurs qui se sont inscrits.
Tu veux que je te dise ce que je pense?
Je vais finir après, tu me diras.
D'accord.
Dustin Johnson, sachez que Dustin Johnson, donc, qui a quitté, eh ben, c'est quand même l'ancien numéro 1, c'est une vedette dans le golf.
Oui,
et champion du tournoi des maîtres en 2020, avec Phil Mickelson aussi, ont vraiment quitté cette fois définitivement la PGA au profit de cette série. Pourquoi? Ben, pour plus de dollars, car il y en a par million dans cette série-là. Figure-toi qu'ils en donnent, les Saoudiens, on veut-tu, en voilà. Notons quand même que Rory McIlroy, notre champion en titre de notre tournoi canadien, et Tiger Woods auraient d'ailleurs décliné leur invitation à des offres de plus de 9 chiffres pour rester fidèles au PGA Tour.
Ouais, ça veut dire, donc, Emilia, j'ai lu ça hier, Myriam, Tiger Woods a dit non, oui, non, mais même le milliard que vous me proposez ne peut pas me convaincre. Je ne vais pas. Voilà, je reste au PGA. Et puis c'est tout. Je pense bien que la cupidité de certaines personnes font que le sport perd de sa valeur.
Ils ont quand même eu peur, hein, la PGA, parce qu'ils arrivent quand même à aller chercher du monde qui commence à quitter pour aller là. Et ça les fait frissonner un petit peu, mais bon, ils sont assez forts, je pense, pour tenir le coup.
Qu'est-ce qu'ils veulent faire avec c'est comme ce Qatar 2022, là. Est-ce que le football, c'est le sport favori là-bas au Qatar? Non, on passe à autre chose.
Ah oui, là, on saute du cocalage. Mais bon, ça parle, en tout cas, ça parle de dollars là-bas.
Oh, voilà, c'est les billets qui parlent, quoi.
Les pétrodollars.
Arabie Saoudite avec le golf, les Qatar avec le soccer, le football. Mm-hmm. On se dit, mais au fait, bon, mais tout est achetable maintenant.
Déjà, le PSG leur appartient. Hein. Il faut quand même oublier qu'il y a des gros, que sans eux, il y a des gros clubs qui n'existeraient pas. Hein. Il faut quand même remettre à César ce qu'il
mérite. Oui, mais en France, mais... est-ce qu'il n'y a pas des millionnaires, des milliardaires qui peuvent acheter le PSG pour s'occuper de ça?
Oui, oui, mais on prend toujours le plus offrant, si j'en sais ça.
Ah, moi, d'accord. OK.
Et si tu as une équipe plus grande, si tu as une équipe plus grande, puisque moi, je viens, je te donne 10 dollars. Mais que mon voisin vient, te donne 30, qu'est-ce que tu vas dire? Ben, je vais prendre le voisin.
Oui, mais il faut faire attention, donner la priorité aux nationaux, comme certains pays le font d'ailleurs. Oui. Alors, est-ce que tu as la bonne nouvelle à la fin pour nous?
Je pense que je vais arrêter sur le golf.
D'accord, merci beaucoup.
Suivez-le parce que c'est ce week-end qu'il y a des grands joueurs. Ils se préparent d'ailleurs pour le Tour des États-Unis qui est tout de suite après la semaine prochaine.
Oui.
Donc, notre tournoi qui a quand même une bonne réputation au Canada.
Merci beaucoup, Myriam.
Alors, je vous dis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, bon week-end à toi. Les affiches Benef with Wings of an Angel. Voilà. On termine la première partie de l'émission avec quelques sujets choisis, qui ont été choisis pour vous. On va parler, dans un premier temps, je vais parler du plus grand prédateur d'Europe découvert sur l'île de Wight. Plus de 10 mètres de long, une tête de crocodile. Les fossiles d'un dinosaure carnivore, vieux de 125 millions d'années d'ailleurs. Probablement le plus grand prédateur ayant vécu en Europe qui ont été découverts sur l'île britannique de Wight selon une étude publiée aujourd'hui jeudi. Voilà, c'est à un collectionneur local d'ailleurs que la paléontologie doit la précieuse trouvaille britannique Nick Chase qui passa sa vie à fouiller les plages de cette île du sud de l'Angleterre parmi les sites les plus riches d'Europe en fossiles de dinosaures. Donc à partir de quelques os d'ailleurs qu'il avait dénichés, vertèbres cervicales, caudales et sacrales notamment, des chercheurs de l'université de Southampton ont réussi à identifier la bête, un psinosaure bipède, ce super prédateur qui vivait au Crétacé inférieur entre 140 millions et 100 millions d'années. Voilà, j'ai vu la photo. C'est la photo, mais moi j'ai imprimé la photo pour mieux regarder. En quoi c'est tellement fascinant, c'est impressionnant. Voilà. Et c'était un animal gigantesque, dépassant les 10 mètres de longueur. Au vu de certaines de ses dimensions d'ailleurs, il représente probablement le plus grand prédateur jamais découvert en Europe, selon Chris Berker, chercheur en paléontologie, qui a dirigé l'étude parue dans la revue PRG. Certes, peu d'os de l'individu ont été jusqu'ici déterrés, mais les chiffres ne mentent pas. Il est le plus gros, il est plus gros et le plus gros des spécimens jamais trouvés en Europe. Voilà. Ça, c'est selon ce qu'il a dit à l'agence France Presse, d'ailleurs, durant la conversation qu'il a eue avec le journaliste de France Presse, l'AFP de l'agence France Presse. Le puissant carnivore paraît en effet encore plus grand, d'ailleurs. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des choses comme ça, des bêtes comme ça qui ont vécu à cette époque-là, ces millions d'années. C'est impressionnant. Voilà. Le puissant carnivore paraît en effet encore plus grand qu'un autre dinosaure prédateur découvert au Portugal en 2017. C'est Thomas Richard Halls, un paléontologue aussi de l'Université américaine de Maryland, qui lui dit, voilà, comme des hérons, l'exercice des comparaisons de cette taille reste encore cependant difficile au sein de ce monde disparu. Matt Lanama, d'ailleurs, qui est un spécialiste des dinosaures du musée Carnegie Hall naturel en Pennsylvanie. Et le plus grand des spinosauridés n'était probablement pas aussi massif que le célèbre Tyrannosaurus rex ou le Giganotosaurus. Ça, c'est costaud, c'est beau à voir et puis c'est effrayant. Et la plupart de ces fossiles extraordinaires ont été trouvés par Nick Chase, l'un des chasseurs de dinosaures les plus compétents qui est mort juste avant l'épidémie de Covid. Oui, le collectionneur a toujours fait de son don de ses trouvailles au musée. Souligne d'ailleurs ces différents paléontologues qui ont été contactés par l'agence France Presse.
Vous écoutez Escale 1718 avec Fulgence Blas.
Voilà, avant de terminer la première partie de l'émission, je vais parler de quelques offres de bénévolat réguliers. La semaine passée, je parlais de quelques offres de bénévolat. Voilà, de la semaine, ça dit que c'était du jour au jour. Bon, pas régulier, mais cette fois-ci, c'est écoute active auprès des aînés. Alors, moi, je vous le dis tout de suite, si vous avez envie, si vous avez le temps, que vous avez envie de vous impliquer dans la communauté, adressez-vous à accèsbénévolat.org, à Christine Langlois, celle qui est responsable. Christine.langlois@accèsbénévolat.org. Elle va vous donner toutes les informations. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Écoute active auprès des aînés. Oui, bénévolat de votre domicile en raison de 3 heures par semaine. Si vous avez le temps, si vous n'avez pas le temps, c'est pas la peine de l'accompagner, de la contacter ou bien de la. Voilà. Entre 9h, 10h et 19h du lundi au vendredi, selon votre disponibilité. Mission de l'organisme, service direct aux personnes en vue de maintenir leur autonomie par le biais de l'accompagnement aux rendez-vous médicaux. L'offre, vous aimez être à l'écoute des besoins des aînés et vous communiquez bien par téléphone. Et l'organisme est à la recherche de bénévoles pour sonder les besoins des aînés de leur service d'accompagnement, transport, des prérequis. Les prérequis, avoir au moins 18 ans, respect de la confidentialité des informations, sociable, empathique, bon sens de l'écoute, être disponible en début de juin pour suivre la formation en écoute active. Parce que quoi, l'écoute active, il y a beaucoup de gens qui écoutent, il y a écouter. Quand on parle d'écoute active, c'est quand vraiment on écoute sans toutefois être distrait par autre chose. Voilà, sans interrompre la personne, écouter activement, c'est ça. Capacité d'enregistrer des informations sur l'ordinateur, bénévolat pour une durée minimum de 6 mois. Voilà, c'est ce qu'on appelle bénévolat régulier. Voilà, 6 mois, vérification des antécédents judiciaires. C'est dans le secteur Rosemont. Et puis, il y a berger urbaine. Ça aussi, c'est un bénévolat régulier. Selon vos disponibilités, tous les jours de 9h à 19h, beau temps, mauvais temps, plusieurs blocs horaires de jour, 9h à 12h, de 12h à 14h, de 14h à 17h ou bien de 17h à 19h. La mission de l'organisme, c'est de proposer des services d'entretien des espaces verts de manière écologique par des petits ruminants. Ça dit quoi, les petits ruminants? C'est les moutons, les chèvres. Par l'éco-pâturage qui permettra à plusieurs espèces animales ou végétales de s'établir et de cohabiter, de rétablir le contact avec le monde agricole. Ça, c'est très, très, très important. Et pour ceux qui pour nous qui vivons en ville, pour ceux qui vivent en ville, c'est pourquoi on dit berger urbain ou bien bergère urbaine, tout en créant un espace convivial où les habitants de la ville peuvent se réunir et échanger. L'offre, c'est veiller à la santé et à la sécurité des moutons, à protéger les plates-bandes de la ville et les petits arbres, informer le public sur l'éco-pâturage, la biologie et le comportement des moutons. Il y aura aussi possibilité de s'occuper des poules, des potagers, des jardins et de s'occuper de la maintenance de la bergerie et du poulailler. Prérequis, aimez les animaux. Si vous n'aimez pas les animaux, s'il vous plaît, ne contactez pas Christine Langlois. Voilà, il faut tout de suite dire j'aime les animaux, mais j'aime pas les moutons. Faut pas aller là-bas. Restez à l'écoute. Après la petite pause publicitaire, mon invité André Delisle, directeur général et conservateur du château Ramsay, va nous faire découvrir ces différentes expositions et les châteaux en particulier, le château Ramsay. Voilà, qui est situé en plein centre-ville, 280 rue Notre-Dame. Restez à l'écoute et tout de suite, mon invité sera avec moi. Merci.
Vous écoutez Escale 1718 avec Fulgence Blas.
Oui, cette émission qui est là tous les jours du lundi au vendredi en semaine, bien sûr, de 17h à 18h. Faites un petit escale chez nous ici voilà, pour prendre connaissance de nos sujets, de ce que nos invités nous font découvrir. Là, André Delisle, qui est le directeur général et conservateur du château Ramsay, qui est situé dans le Vieux-Montréal, qui vient nous parler, qui est venu pour nous parler d'abord de l'exposition Leçon de l'Arctique sur Roald Amundsen. Oui, c'est bien prononcé?
Probablement.
Ou me corriger.
Mon Norvégien n'est pas terrible.
Voilà, mon Norvégien, même si je connais les pays scandinaves, Amundsen, c'est vrai, un peu allemand par exemple. De l'exposition Monde Inuit et puis de l'exposition permanente, bien sûr, du jardin, du circuit de visite, du château Ramsay et de manière plus générale. Quoi. N'oubliez pas, c'est parce que c'est château Ramsay, c'est un musée. C'est un museau historique, moi je peux le nommer comme ça, si je peux me permettre.
Exactement.
Alors, le directeur général et conservateur de ce musée est mieux placé que Fulgence, même si je l'ai déjà visité, pour nous le faire découvrir encore, parce que lui, il est de l'intérieur. Moi, je n'étais qu'un visiteur. Bonjour, André Delisle.
Bonjour.
Merci de, malgré ce mauvais temps, d'être venu nous faire découvrir votre musée, votre château.
Ben, je suis content de rencontrer un visiteur du château Ramsay ici aujourd'hui.
Merci beaucoup. Alors, on va commencer par, avant de parler des différentes expositions, ce beau musée-là, pour moi, c'est un de mes musées préférés, hein, qui a toute une histoire en arrière.
Ah oui, c'est incroyable. D'abord, avant tout, c'est un site historique. Hein, donc,
oui.
C'était la résidence du gouverneur de Montréal,
oui,
à compter de sa construction en 1705.
Oui.
Puis par la suite, étant donné qu'il est un lieu de pouvoir, hein,
oui,
il va être témoin d'un nombre impressionnant de grands moments de notre histoire.
Oui.
Soit de la présence des Américains, Lord Elgin à l'époque que Montréal est capitale du Canada,
oui.
Et ainsi de suite. À la fin du 19e siècle, notre société, une société historique, sauve le château Ramsay de la démolition. Hein. Ce n'est pas d'hier qu'il faut se battre pour préserver notre patrimoine.
Oui.
Et donc, ils ouvrent le musée, créent le musée, ouvrent le musée en 1895. Donc, on a plus de 125 ans. On est le plus ancien musée du genre au Québec. Et c'est aussi le premier édifice à avoir été classé monument historique par le gouvernement du Québec en 1929.
Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah ouais, c'est vraiment, oui. Oui.
C'est un des rares survivants de l'époque de la Nouvelle-France.
Oui, oui.
Donc, on est tout juste en face de l'hôtel de ville, métro Champ-de-Mars, en plein cœur du Vieux-Montréal, à deux pas de la place Jacques-Cartier.
Oui.
Et on présente donc l'histoire de Montréal et du Québec, de la préhistoire des Autochtones jusqu'au 20e siècle, en se basant sur nos riches collections, hein, parce qu'on collectionne depuis le 19e siècle. Donc, on a des objets rares et uniques à présenter et comme appui à ce discours-là sur l'histoire.
Oui.
On est aussi spécialisé en Nouvelle-France, donc tout ce que vous voulez savoir sur la Nouvelle-France, alors il faut visiter notre visite dans les voûtes.
Oui. Il faut y aller, voilà. En collaboration, voilà, sélectionné par une équipe d'experts en collaboration avec l'UNESCO comme l'un de 1001 sites historiques qu'il faut avoir vu dans sa vie.
Exactement. Et vous avez déjà coché. Oh, c'est bon, bravo. Il en reste plus que 1000.
J'ai déjà coché. Le château Ramsay propose de revivre plus de 500 ans d'histoire à travers ses nombreuses expositions.
Voilà.
Quand même. Vous, en tant que directeur, vous êtes là, ou conservateur maintenant, vous êtes là tous les jours. Ça dit qu'à un moment donné, est-ce que André se dit, oh, j'ai assez vu là.
Oh non. Ça, c'est un commentaire effectivement qu'on entend souvent.
Oui.
Parce que les gens croient que l'histoire est figée dans le temps.
Oui.
Ça a été écrit une fois, c'est fait, alors que ce n'est pas le cas du tout. Premièrement, on revisite notre passé, on le réinterprète,
oui.
Et on fait des découvertes. On fait encore des découvertes aujourd'hui sur notre passé, un document d'archives, une information, un artefact. Et puis voilà, voilà l'histoire de notre passé sous un autre angle, un nouveau point de vue.
C'est ça. Alors, on va parler un peu de ces différentes expositions. Et puis, bon, on va revenir sur l'histoire même de ce beau château, de ce musée, un de mes musées préférés. L'exposition Leçon de l'article sur Roald Amundsen, ça parle de quoi? Qu'est-ce que ça expose là-bas? Qu'est-ce qu'on va voir?
On suit Amundsen, on va la simplifier, Amundsen,
oui, oui.
Oui, dans son histoire d'explorateur.
Oui.
Alors, Norvégien, jeune enfant au 19e siècle,
oui.
Il est fasciné par Franklin. Franklin, c'est un Britannique qui a tenté de trouver le passage du Nord-Ouest, donc par le nord du Canada,
oui.
En 1845. Franklin est parti, il a disparu, bateau... Corps et biens perdus. On n'a jamais entendu parler
silence
de
radio.
Lui.
Silence radio.
Complet.
Disparition totale.
Jusqu'à
quoi.
Il y a quelques années,
oui.
Où le gouvernement canadien a découvert les deux épaves des bateaux de notre ami Franklin.
Où ça?
Dans le nord du Canada.
Dans le nord, ouais. Du Canada. Oui.
2014, je pense, et 2016. L'Erebus et le Terreur. Donc, les deux bateaux épaves qui avaient effectivement coulé, pris dans les glaces, détruits par les glaces. Voilà. Donc, lui est fasciné par cette expédition, ce défi.
Oui.
Il se dit, un jour, je réussirai, moi, à trouver le passage du Nord-Ouest. Il a une première expérience lors d'une expédition en Antarctique.
Oui.
Question de s'habituer un peu au froid. Il revient en Norvège et il planifie son voyage. Donc, en 1903, à bord du Joa, alors G-J-O-A,
oui.
Le nom de son bateau, il quitte avec une petite équipe. Pour découvrir ce passage,
oui.
Il réussira, donc en 1906, trois ans plus tard,
oui.
Donc on le retrouve à l'autre extrémité du Canada. C'est la première personne blanche à avoir traversé donc, le passage du Nord-Ouest.
En dehors des Autochtones.
Exactement, parce qu'évidemment les Inuits sont là depuis des millénaires.
C'est ça.
Et d'ailleurs, lui a fréquenté les Inuits pendant deux ans. Pendant son séjour là-bas dans le Nord.
S'il n'y a pas de collaboration avec eux, on peut pas...
Il n'aurait pas pu réussir.
La sauvagerie de l'espace, de l'endroit, tout ça, eux ici connaissent.
Exactement, il a appris comment travailler avec les chiens, les traîneaux, les sacs. Alors, il développe une quantité de techniques, il apprend d'eux, et grâce à ce savoir, il pourra ensuite relever son second défi, atteindre le pôle sud. Donc, le premier, atteindre le pôle sud.
Wow.
Alors, on le suit à travers son exploration du Nord, l'exploration, son expédition dans le pôle Sud, en fait jusqu'à son décès aussi, alors qu'il vient en aide à une expédition de recherche. Là, il y a un dirigeable italien qui s'est perdu dans le Nord. Oui. Il part en avion à la recherche et lui, à son tour, va disparaître avec son avion. Donc, c'est le décès de notre ami Amundsen. Alors, on suit ce périple tout au long et on découvre aussi ce qu'il a appris de la part des Inuits. Donc, il a rencontré un groupe, en particulier un sous-groupe Inuit, qu'on appelle les Netsilik.
Oui.
Et donc, on a pu emprunter une série d'objets qui viennent de la collection anthropologique de l'Université, l'Université de Montréal. Pardon.
De Montréal.
Parce qu'il y a un chercheur à l'université qui a travaillé sur les Netsilik. Donc, on présente là des objets de la vie sédentaire de nos amis Netsilik.
Ouais,
Et il y a des objets aussi ayant appartenu à Amundsen. Sa montre de poche, la cuillère qu'il avait lorsqu'il a atteint le pôle sud.
Des objets la vaisselle. Personnels.
Ouais, personnels. Sa montre de poche, alors ça c'est très particulier, n'est-ce pas? Et on a des objets d'Amundsen, plus les objets de la culture Netsilik. Et cette exposition-là qui a été réalisée par le musée Fram, alors Fram c'est le nom du bateau, le deuxième bateau dont je vais parler du Joa pour le Nord.
Oui.
Le Fram, c'est celui qui a atteint le pôle Sud.
Le pôle Sud.
Alors, c'est le musée Fram à Oslo, en Norvège, qui a réalisé l'exposition grâce à la collaboration de l'ambassade de Norvège à Ottawa. Et cette exposition-là est associée à une autre exposition qui, elle, nous vient de l'Université Laval et qui nous en apprend davantage sur les Inuits.
Ça, c'est le monde Inuit.
Monde Inuit au pluriel. Monde Inuit.
Tout
est dans ce petit S qu'on ne trouve pas sur Inuit, mais qu'on trouve sur monde. Ah. Alors, le monde des humains, le monde des animaux, le monde invisible, le monde des hommes, le monde des femmes, le monde des morts.
Oui.
Alors, toutes les relations, la cosmologie Inuit, comment ils perçoivent le monde, les saisons. Donc, le monde Inuit, ou les mondes Inuit, comme je disais, est expliqué à travers cette collection de Bernard Saladin d'Anglure. Monsieur Saladin d'Anglure est un anthropologue, professeur émérite, qui a consacré sa vie aux Inuits.
Oui.
Et il a cédé une collection de 350 objets à l'Université Laval qui a réalisé.
350 objets?
Ouais, qui a réalisé. Évidemment, on ne présente pas les 350, on a une quarantaine d'objets.
C'est une richesse.
Absolument. Mm. On a des costumes en caribou, des costumes en plumes de canard d'Eder, des objets, des jouets d'enfants, des objets, des outils pour la chasse. Des objets qu'utilisent les femmes. Donc voilà, on explique un costume de chaman.
Vous aiguisez encore ma curiosité pour que je repasse là. Je vais repasser, ça c'est sûr.
Mais c'est une façon de découvrir. Comme je dis, on parle beaucoup des Autochtones, mais les Inuits sont aussi des Autochtones dont on parle peu et qui donc habitent, partagent avec nous le territoire québécois. Donc au nord du 55e parallèle, c'est le Nunavik qui a été créé et qu'on retrouve dans 14 villages, 13 000 habitants.
Oui.
Et on connaît peu ces gens. Alors là, c'était l'occasion, avec l'exposition d'Amundsen, d'en profiter pour mieux connaître cette culture,
Faites-moi
cette population.
Confiance. Je vous le promets, si j'ai pas l'habitude de promettre, mais je vous le promets, je vais repasser pour, c'est-à-dire faire d'une pierre deux coups en même temps. Quoi, voilà. Parce que ces deux expositions temporaires, c'est pas permanent.
Ils sont temporaires, mais c'est présenté quand même jusqu'en avril de l'an prochain.
2023.
Donc vous avez le temps.
Oui.
Au cours de l'hiver, nous allons sûrement organiser une série de conférences aussi avec des spécialistes qui vont nous parler davantage des Inuits du Nord. Présentement, Amundsen, c'est le nom d'un brise-glace de la garde côtière canadienne sur lequel on fait de la recherche sur le réchauffement de la planète, les impacts.
Ce nom a été donné à partir de
Oui. D'ailleurs, le bateau s'appelait au départ le Franklin. Il a été renommé Amundsen. Oui, exactement.
Wow, merci
c'est
de
riche,
voir.
C'est riche, oui.
C'est vraiment riche. Quelles sont les expositions permanentes qui sont là actuellement?
Alors, la première, c'est Hochelaga, Ville-Marie, Montréal. Donc, on parcourt, là, on explique la présence des Autochtones avant l'arrivée des Européens.
Oui.
Les premiers contacts, tout le développement du commerce des fourrures, et ensuite le développement commercial, je dirais, industriel de la ville de Montréal, donc jusqu'au 20e.
J'ai appris à travers un chauffeur de taxi, ça fait quelques années, que Hochelaga de Maisonneuve, c'était un quartier riche, il y avait beaucoup d'usines là, c'était très industrialisé.
Là, il faut visiter l'autre château à Montréal, qui est le château Dufresne, qui explique tout le développement de ce quartier.
Oui.
Là, il y avait une pensée urbanistique, je dirais, derrière ce projet de création de ces villes, en fait, qui ont été fusionnées avant les fusions du tournant du dernier siècle.
C'est ça.
Donc, c'est pour former le Montréal de l'époque.
Oui.
Puis ensuite, dans les voûtes, parce qu'on peut descendre, parce que, comme on le disait avant l'entrevue, de l'extérieur, ça peut sembler tout petit.
Oui.
Il y a quand même 15 salles d'exposition, ce qui inclut les voûtes du château, donc un espace très particulier du 18e, qui était les cuisines des domestiques. Et là, on explique toute la famille de Ramsay, la place, on explique la Nouvelle-France.
Oui.
L'administration, la place des femmes, l'éducation des enfants, les hommes à la guerre, etc., etc. Donc, tout ce que vous avez voulu savoir sur la Nouvelle-France.
Parce que toutes ces périodes, c'est des périodes de guerre.
En bonne partie, effectivement, oui, c'est une façon de régler...
la conquête des territoires.
Exactement.
La conquête... Oui, et puis l'autre permanente, l'autre exposition permanente.
Ce sont les deux. Donc, on a l'exposition au rez-de-chaussée sur l'histoire de Montréal,
oui,
la Nouvelle-France, dans les voûtes. On a aussi des bornes à l'intérieur du château, tablettes électroniques, des bornes qui nous mettent en contact avec ceux et celles qui ont côtoyé ou même qui ont vécu au château Ramsay pour nous parler justement de toute cette histoire, tous ces événements qui se sont déroulés au château Ramsay. Évidemment, vous êtes accueillis par monsieur et madame de Ramsay qui vous parlent de leur maison. Un peu plus loin, vous croisez Benjamin Franklin, qui vous explique pourquoi il est venu ici en 1776, qu'est-ce qu'il voulait faire.
Ouais.
Ensuite, bon, l'épouse du gouverneur qui habitait là au 19e siècle, les soirées qu'elle organisait, et ainsi de suite.
Sans compter la présence des Américains qui voulaient à tout prix s'emparer de... Voilà, sur le Canada ne devait même pas exister. Et ça, on devait faire partie des États-Unis d'Amérique.
Exactement.
On revient à ça, parce qu'il y a...
Montréal. Montréal était américaine de novembre 75 à juin 1776, effectivement. Et le château Ramsay était le quartier général des Américains. On a organisé une grande fête pour y accueillir Benjamin Franklin le 29 avril 1776. Il a passé à peu près ici une dizaine de jours, rencontré les Montréalais et tout. Sa conclusion était qu'il serait plus simple d'acheter le Canada que de tenter de l'envahir.
Est-ce que ces histoires sont enseignées dans les écoles?
L'histoire, c'est vaste. Alors, il y a toujours des choix, même pour nos expositions. On ne peut pas parler de tout.
Non.
Donc, on essaie...
Mais votre musée, vraiment, nous donne beaucoup d'infos sur l'histoire même ville, de la province du Canada aussi.
Et d'où les expositions temporaires, l'intérêt et de nos autres activités culturelles, que ce soit des visites ou des conférences et ainsi de suite, ça nous permet de couvrir un peu plus large aussi.
Oui. Waouh! Alors, pour ceux qui ne sont jamais allés là, moi, je suis tombé sur quelque chose dans mes recherches. Objet de coup de cœur du directeur et du conservateur, la cloche de Louisbourg. Parlons-nous un peu de cette cloche-là.
Ah oui. Mais ça remonte. Évidemment, Louisbourg, forteresse, pour contrôler la circulation maritime dans le golfe du Saint-Laurent et donc dans l'Inde, qui donne accès à la colonie.
Oui.
Alors, on construit cette grande forteresse qui sera capturée, donc, prise par les Britanniques.
Oui.
Et comme trophée de guerre, les Britanniques partent avec les cloches. En fait, il y avait trois cloches.
Oui.
Ils partent avec les cloches. Il y en a une qui se retrouve aux États-Unis. Et une va finalement se retrouver en Nouvelle-Écosse. Madame Barry, journaliste de la fin du 19e siècle, une des premières femmes journalistes, d'ailleurs.
Était en avance sur son époque.
En voyage à Halifax, elle voit dans une boutique d'un antiquaire cette cloche qu'elle dit voilà un témoin de notre histoire qu'il faut sauver. Elle achète par souscription publique la cloche et elle l'offre au château Ramsay lors de sa soirée d'inauguration. Donc, en fait, techniquement ou officiellement, c'est le premier objet qui nous a été offert au musée lors de son inauguration.
Oui. Waouh! Wow. Ouais. Je comprends aussi le directeur lui-même. C'est son coup de cœur, la cloche de Louisbourg.
Elle siège en plein cœur de notre salle de Nantes avec les boiseries.
Ouais, c'est ça. Allez-y, découvrez cette cloche de Louisbourg qui est le coup de cœur du directeur entre les loin.
C'est rare qu'on se prononce ça. Bien souvent, on nous demande quel est votre objet préféré. C'est très rare. Et ça, c'est un projet qu'on a réalisé l'année dernière.
Oui.
Donc, oui, c'est ça. C'est un objet qui, comme je disais tout à l'heure, qui a plusieurs facettes. Il y a toute l'histoire de Louisbourg, il y a toute l'histoire de la colonie, il y a l'histoire des batailles.
C'est ça.
Puis il y a l'histoire des femmes aussi, la présence des femmes, leur implication
dans la
sauvegarde du patrimoine.
C'est tellement petit de l'extérieur. Quand on arrive devant, là, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai à voir ici? On voit de belles choses, mais quand on rentre, comme vous l'avez dit, voilà. Parle-nous un peu du jardin avant d'attaquer rapidement les heures d'ouverture et puis les tarifs.
Suivez le chef aussi, notre visite du quartier. Mais pour le jardin, effectivement, Claude de Ramsey, comme il se doit, gouverneur de Montréal, avait un vaste jardin autour de sa demeure.
Oui.
Avec le temps, on a percé des rues, on a installé des stationnements. Tout est disparu.
Tout est, oui.
Dans les années 90, on a fait table rase du stationnement et on a ramené une partie des jardins de Claude de Ramsey. On a inauguré le jardin du gouverneur.
Oui.
Jardin du gouverneur en 2000, donc il y a déjà plus de 20 ans.
Oui.
C'est un jardin inspiré de des jardins de la noblesse, des jardins qu'on pouvait retrouver au 18e siècle en Nouvelle-France, en milieu urbain.
Oui.
Donc, avec des murs, petits potagers, arbres fruitiers. Hein, il y avait, Ramsey avait un verger.
Mm.
Des plantes médicinales et aromatiques, jardin d'agrément. Oui. Donc, on retrouve là dans un espace, je dirais, un oasis de tranquillité au cœur de l'action du Vieux-Montréal.
Je me rappelle encore les images.
Voilà. Et cet été, pour la première fois, vous serez accueillis par nos nouveaux amis du jardin, donc des bénévoles qui verront à animer puis à vous renseigner sur les plantes, sur le jardin, vous aider à la visite tout à fait gratuitement, parce que le jardin est accessible gratuitement.
Comment on devient bénévole là-bas?
Alors, il faut s'inscrire.
Oui.
Je vous ai entendu parler de ça. Ouais. Il suffit de contacter le musée. Nous, on a des périodes de formation à l'automne et au printemps.
Oui.
Et on peut devenir... On a plus de 100 guides bénévoles, vous savez, qui animent. On a des visites scolaires, on a des visites de francisation aussi. Ce sont nos bénévoles qui sont dédiés à l'éducation.
Qui sont dédiés
à maintenant, ils prennent place dans le jardin.
Oui, quelles sont les heures d'ouverture?
Alors, on est ouvert facile. Ouvert tous les jours, de 10h à 17h.
Oui.
Et là, cet été, on a suivi le chef, un circuit historico-alimentaire dans le Vieux-Montréal.
Oui.
Alors, c'est les jeudis, vendredis, départ à 5h, 17h.
Oui.
Vous suivez Claude Maupoint, le véritable chef cuisinier de Claude de Ramsey au début du 18e siècle. Il a tout à fait... qui a vécu.
Okay.
Et là, il vous fait visiter le quartier et vous en apprend sur l'histoire de l'alimentation au Québec et à travers les différents patrimoines et traces qu'on peut voir dans le Vieux-Montréal. Et le tout se termine dans le jardin, justement, du gouverneur, sur notre terrasse, avec une dégustation de bière grâce à notre collaborateur, la brasserie Les Sœurs Grises et le Festival mondial de la bière.
Merci
Donc ça,
beaucoup.
C'est tout l'été jusqu'à la mi-août.
Pour les dernières 30 secondes qui nous restent, quel est le message que vous avez à lancer à nos auditeurs? Ceux qui n'ont jamais mis les pieds là-bas. Ceux et celles qui ont déjà mis les pieds là-bas pour aller voir les nouvelles expositions qui vont jusqu'en 2023.
Oui.
Quel est le message que vous leur lancez avant de vous laisser partir?
Vous voyagez à travers le monde.
Oui.
Vous allez voir les pays, les musées dans toutes les villes que vous parcourez.
Oui.
Vous êtes passé 100 fois devant le château Ramsey, vous n'êtes jamais entré.
C'est vrai.
1001 sites, il faut cocher.
Oui. L'UNESCO a mis ça sur la liste.
Il faut venir faire un petit tour.
Merci beaucoup à vous.
Merci à vous.
Anthony Lee, directeur général et conservateur du château Ramsey. C'est un de mes musées préférés.
La prochaine fois, vous me le dites, je fais la visite avec vous.
Voilà, d'accord. Merci à vous.
Merci. Au revoir.
Au revoir.
C'était sur une grande route, je marchais là depuis des jours, voire des semaines ou des mois, je marchais là depuis toujours. Une route pleine de virages, des trajectoires qui dévient, un chemin un peu bizarre, un peu tordu, comme la vie. Évidemment, j'étais pas tout seul, j'avais envie de faire connaissance, il y avait un tas de personnes et personne marchait dans le même sens. Alors je continuais tout droit, mais un doute s'était installé, je savais pas ce que je foutais là, encore moins où je devais aller. Mais en chemin, au fil du temps, j'ai fait des sacrées rencontres, des trucs impressionnants, faut absolument que je vous raconte. Ces personnages que j'ai croisés, c'est pas vraiment des êtres humains. Tu peux parler avec eux, mais jamais leur serrer la main. Tout d'abord, sur mon parcours, j'ai rencontré l'innocence. Un être doux, très gentil, mais qui manque un peu d'expérience. On a marché un petit moment, moins longtemps que ce que j'aurais cru. J'ai rencontré d'autres éléments et l'innocence a disparu. À un moment sur mon chemin, j'ai rencontré le sport. Un mec physique, un peu grande gueule, mais auprès de qui tu deviens fort. Pour des raisons techniques, on a dû se quitter, c'était dur. Mais finalement c'est bien comme ça, puis le sport, ça donne des courbatures. J'ai rencontré la poésie, elle avait un air bien prétentieux. Elle prétendait qu'avec les mots on pouvait traverser les cieux. Je lui ai dit je t'ai déjà croisé et franchement tu vaux pas le coup. On m'a parlé de toi à l'école et t'avais l'air vraiment relou. Mais la poésie a insisté et m'a rattrapé sous d'autres formes. J'ai compris qu'elle était cool et qu'on pouvait braver ses normes.
Je lui ai demandé, tu penses qu'on peut vivre ensemble? Je crois que je suis accro. Elle m'a dit, t'inquiète, le monde appartient à ceux qui rêvent trop. Puis j'ai rencontré la détresse, et franchement, elle m'a saoulé. On a discuté vite fait, mais rapidement, je l'ai refoulé. Elle a plein de certitudes sous ses grands airs pleins de tensions. Mais vous savez quoi, la détresse? Elle a pas de conversation. À un moment, sur ma route, j'ai rencontré l'amour. Je lui ai dit, tiens, tu tombes bien, je veux te parler depuis toujours. Dans l'absolu, t'es une bonne idée, mais dans les faits, c'est un peu nul. Tu pars en couille une fois sur deux, faudrait que tu retravailles ta formule. Elle m'a dit, écoute petit, ça fait des siècles que je fais mon taf. Alors tu me parles sur un autre ton si tu veux pas te manger des baffes. Moi je veux bien être gentil, mais faut que chacun y mette du sien. Les humains ne font aucun effort et moi je suis pas un magicien. On s'est embrouillé un petit moment et c'est là que je me suis rendu compte que l'amour était sympa mais que quand même il se la raconte. Puis il m'a dit qu'il devait partir, il avait des rendez-vous par centaines. Et ce soir il devait dîner chez sa demi-sœur, la haine. Avant de partir j'ai pas bien compris, il m'a conseillé d'y croire toujours. Puis il s'est éloigné sans se retourner, c'était les derniers mots d'amour. Je suis content de l'avoir connu, ça, je l'ai bien réalisé. Et je sais qu'un de ces quatre, on sera amené à se recroiser. Un peu plus tard, sur mon chemin, j'ai rencontré la tendresse. Ce qui reste de l'amour derrière les barrières que le temps dresse. Un peu plus tard, sur mon chemin, j'ai rencontré la nostalgie. La fiancée des bons souvenirs qu'on éclaire à la bougie. Assez tôt sur mon parcours, j'avais rencontré l'amitié. Et jusqu'à ce jour, elle marche toujours à mes côtés. Avec elle, je me tape des barres et on connaît pas la routine. Maintenant, c'est sûr, l'amitié, c'est vraiment ma meilleure copine. J'ai rencontré l'avenir, mais il est resté très mystérieux. Il avait la voix déformée et un masque sur les yeux. Pas moyen de mieux le connaître, il m'a laissé aucune piste. Je sais pas à quoi il ressemble, mais au moins je sais qu'il existe. J'ai rencontré quelques peines, j'ai rencontré beaucoup de joie. C'est parfois une question de chance, souvent une histoire de choix. Je suis pas au bout de mes surprises, là-dessus y a aucun doute. Et tous les jours je continue d'apprendre les codes de ma route. C'était sur une grande route, je marchais là depuis des jours, voire des semaines ou des mois, je marchais là depuis toujours. Une route pleine de virages, des trajectoires qui dévient, un chemin un peu bizarre, un peu tordu, un peu comme la vie.
Malade, rencontre, c'est le titre de son salam, de sa poésie qu'on vient d'écouter là, de sa pièce. Alors, avant de passer aux remerciements pour Mariam et André Delis, directeur général et conservateur du Château Ramsay, c'est un de mes musées préférés d'ailleurs, comme je le dis, je vais parler rapidement du concours de chant à la Maison Symphonique. Bon, il y a quelques Canadiennes qui se sont qualifiées d'ailleurs. La grande finale de voix 2022 de la voix, présentée par le Concours international de Montréal qui se termine aujourd'hui. Et les demi-finales se sont passées hier avant-hier. Aujourd'hui, c'est la finale. Donc, depuis le 31 mai, il y a eu 32 jeunes chanteurs et chanteuses. Chanteuses et chanteurs, ou bien chanteurs, chanteuses. Moi, bon, je suis chanteur, c'est les deux en même temps. Parmi les plus prometteurs qui ont offert des performance et les finalistes se sont produits en demi-finale hier et avant-hier et hier. Et aujourd'hui, c'est la finale. Voilà, concours musical international de Montréal qui réunit, comme je l'ai dit, c'est des artistes venus de partout. Il y a trois Canadiens parmi les finalistes. Hein. Ouais. C'est l'Allemande. Il y a une Allemande aussi parmi les finalistes, l'Allemande Valérie Eckhoff, il y a Sarah Dufresne, il y a Hugo Laporte et puis Simone McIntosh et Ennis Varenda qui sont les finalistes du volet ARIA du CIMIMM 2022, 19h à la Maison Symphonique, c'est ce soir. Voilà, donc n'hésitez pas, pour ceux qui n'ont pas encore, allez-y, je pense bien qu'il doit y avoir encore de la place, hein. Vous pouvez aller acheter vos billets rapidement, à 19h30, voilà. C'est qui est le directeur de chef d'orchestre qui sera là, c'est Jacques Lapcombe. La durée, c'est 14 à 18 minutes par concurrent. Il y a 5 concurrents, par exemple. Et puis bon, c'est comme ça. Bon, on dit bravo aussi aux demi-finalistes, hein, ça, il faut le dire. Pour ces genres de compétitions comme ça, quand on arrive en demi-finale, ça, moi, pour moi, c'est presque la finale, quoi. Voilà. Ça, parce qu'ils ont été éliminés en demi-finale, qu'on ne leur dit pas bravo. Hein, Nicolas ? Ouais, c'est vrai, il faut le dire bravo aussi. Hein. Moi, un demi-finaliste, c'est un finaliste. Voilà. Et on dit bravo à ceux qui vont chanter ce soir devant le public avec les instruments de valeur, c'est-à-dire la voix, c'est à la maison symphonique. Alors, c'est trois Canadiens, oui. Chez les sopranos, il y a Sarah Dufresne, il y a une colorature originaire de Niagara Falls, Niagara dont on parlait hier ici avec Stéphane Baudry, qui était là-bas, c'est de là-bas qu'il nous a fait notre chronique. Alors ne ratez pas. Merci à toi Nicolas, on se retrouve la semaine prochaine. Oui, je dis merci à Myriam Larrache et à notre invité André Delis, qui est le directeur général et conservateur du château Ramsay. C'est le musée, l'un des musées les plus... C'est pas caché, c'est en face de l'hôtel de ville de Montréal. Voilà, j'ai dit merci à votre fidélité, pour votre fidélité d'être avec nous tous les jours à Escale 1718. Toutes les émissions de Canal M sont sur toutes les plateformes numériques. Vous ne les ratez pas. Et puis sur la télé numérique aussi. Et je vous dis... du fond du cœur, merci de votre fidélité encore une fois et on se retrouve demain. Sur ce, je vous dis ciao.